Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Jenny Chamas. Elle est maman de deux enfants, coach certifiée, fondatrice de Coachapi, diplômée de Sciences Po et de l'Institut français de la mode. Pendant 10 ans, elle a eu une belle carrière de management à l'international. Elle a franchi plusieurs étapes décisives. Démission suite à un burn-out, promotion successive et expatriation pour un poste dans un comité de direction. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années, elle dirige son entreprise avec une formidable équipe de coachs et de collaboratrices, évoluant dans sa zone de génie, l'accompagnement des leaders. Grâce à son expérience professionnelle très riche, nous allons aborder différents sujets. Comment ça se passe aujourd'hui en entreprise pour les futures mères? Comment est-ce qu'on peut travailler son organisation dans le privé comme dans le professionnel? Est-ce qu'il existe un leadership féminin? Et si oui, comment est-ce qu'il s'exprime? Nous allons commencer tout de suite par une première question qui est pas si évidente que ça. Dans quelle mesure la maternité est un frein à l'ambition des femmes et des mères? Je vous souhaite une très bonne écoute.
J'adore cette question parce qu'on ne la pose jamais comme ça, mais en fait, le fait est que c'est bien de se dire les choses. Il y a une étude de l'IFOP qui est sortie en octobre 2021 et qui montrait que... Alors, c'est une étude qui étudiait les cadres dirigeants et qui montrait pourquoi il y avait... si peu de femmes cadres dirigeantes, par exemple. Et donc, le deuxième frein aux femmes pour évoluer dans leur carrière en tant que cadre dirigeant, c'est justement ce sentiment de sacrifier, d'avoir à sacrifier sa vie personnelle et donc sa maternité. Donc, il y a, tu vois, 35% des femmes qui ont été interrogées qui disent que ça, c'est vraiment leur plus gros frein, ce sentiment d'avoir à sacrifier leur équilibre de vie. Et bien souvent, en fait, elles sont mères. Et donc, c'est vraiment ça, c'est que si elles acceptent un poste, alors ça veut dire qu'elles vont devoir travailler beaucoup. Et donc, elles vont devoir délaisser leur foyer, leurs enfants, qu'elles vont passer à côté leur enfance, tu vois, tout ça. Donc, c'est un sujet de société, en fait, clairement. Et c'est pas du tout anodin.
Et est-ce que dans les faits, on constate qu'en effet, la maternité, c'est en effet un frein dans les entreprises à l'évolution des personnes? Parce que là, tu évoques la partie qui est un petit peu intrinsèque à la mère, à ce qu'elle pense, à ce qu'elle ressent, ce qui est tout à fait légitime, hein, soyez intéressant. Ouais. Hein. Mais est-ce que pour le coup, dans les structures, vraiment, on constate encore aujourd'hui que elle va nous faire un gamin, elle va nous prendre un deuxième peut-être, et puis il faudra qu'elle aille chercher à l'école. Est-ce qu'on entend encore ces discours-là en entreprise?
Alors écoute, donc moi je ne peux pas parler pour toutes les entreprises évidemment, parce que je ne suis pas dans toutes les entreprises. En revanche, j'ai évidemment, je suis en contact avec des femmes que je coach, etc. J'ai encore des clientes, même des prospects, qui me disent, j'ai annoncé ma grossesse et ça a été un vrai souci. Là, la dernière fois, c'était la semaine dernière, une femme qui me dit que ça a été super mal pris parce que dans son équipe, il y avait une autre femme qui était enceinte. Donc, comme si elle l'avait fait exprès. Quoi. C'est, attends, t'es enceinte alors qu'on a déjà une femme enceinte, quoi. Le truc.
Comment donc, tu peux me faire ça?
Voilà, comment tu peux me faire ça? Donc ça, c'est ça existe encore, même si je pense que c'est très variable selon les entreprises. C'est pas une réalité partout, mais ça existe encore. Et ça existe encore assez fréquemment pour que moi, je l'entende régulièrement. La deuxième chose que je dirais, c'est que en parallèle de ça, tu as maintenant, il y a le congé paternité qui a été allongé, pas assez à mon goût. Moi, j'entends aussi des entreprises qui se plaignent que le congé paternité était allongé, que les papas demandent à le prendre. Tu te rends compte quand même?
Pas déconner, ce qu'ils font.
Et donc, si tu veux, pour moi, c'est aussi le pendant. C'est-à-dire qu'on voit qu'au niveau de la maternité, il y a toujours un sujet. Et puis, parallèlement, même le congé paternité est un sujet. Donc, alors, heureusement, c'est pas pareil partout. Et je pense que ça, c'est à dire. Mais c'est encore trop présent dans les conversations. Enfin, moi, je l'entends tout le temps.
Ouais, tout à fait. Mais et bien évidemment, c'est vrai qu'on se retrouve encore, même si on est passé à un mois, à un énorme déséquilibre en termes de ce qu'on appelle malheureusement le risque maternité, donc pour le coup le risque parentalité, qui est totalement déséquilibré. On a fait un épisode avec Violaine Dutrot sur le sujet, j'invite les auditeurs et les auditrices à l'écouter pour bien comprendre tous les enjeux, parce qu'on ne va pas refaire tout un sujet sur le congé paternité, même si c'est en effet un gros enjeu d'égalité. Mais donc une fois qu'on est mère, une fois qu'on est mère en entreprise, comment est-ce qu'on fait pour réussir à équilibrer tout ça ? J'imagine qu'il doit y avoir et d'un côté des sujets professionnels, et d'un côté des sujets personnels, mais j'entends de soi à soi, mais aussi un autre côté vie privée, parce qu'on n'est pas toute seule à l'avoir fait l'enfant.
Oui, complètement. Il y a pas mal de choses et en fait, ça se joue à différents niveaux. Alors moi, effectivement, ma spécialité, elle est d'abord de soi à soi. C'est-à-dire d'être consciente et conscient que la maternité, et puis en plus la parentalité, mais là on parle des mères, la maternité change quelqu'un dans le sens où déjà on a un petit être qui devient par la force des choses une priorité parce qu'il ne peut pas s'occuper de lui tout seul en fait. Et que donc, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile d'envisager comment on va le vivre émotionnellement, même de façon organisationnelle, dans le quotidien, même professionnel. Et donc, il y a un temps de latence, en fait, où on va apprendre à naviguer avec notre enfant. Et en fait, le congé maternité est presque trop court. Si tu veux, ça suffit pas pour apprendre à naviguer. Il y a des personnes chez qui ça va tout de suite très vite, et puis d'autres, il faut quelques années pour se sentir vraiment bien. Donc, je pense que ça passe déjà par une super connaissance de soi. Et en fait, c'est une découverte, une redécouverte de soi. Qui suis-je en tant que maman ? Je ne sais pas en fait qui je suis tant que je n'ai pas été maman. On ne sait pas avant quelles vont être ses propres limites. On ne sait pas ce qu'on va découvrir de soi. Donc, c'est vraiment aussi accueillir que c'est une aventure émotionnelle et de découverte de soi qui va nous demander du temps, de la compassion envers soi. Parce qu'on a envie de tout savoir faire très bien. Et puis, en fait, c'est difficile d'accueillir un enfant au monde. Donc, Donc voilà, il y a vraiment cet aspect-là d'intime en fait. Après, il y a comment ça se joue avec le deuxième parent. Quel est l'équilibre avec ce deuxième parent ? Est-ce qu'il y a des discussions sur cet équilibre, sur le partage de la charge, sur les responsabilités de chacun ? Et en fait, là encore, il y a des inégalités frappantes parce que il y a des personnes qui arrivent à discuter, puis d'autres qui ne savent pas trop discuter, demander, etc. On a des deuxièmes parents qui vont s'investir pleinement, d'autres pas. Donc là, il y a un terrain aussi de découverte de l'autre, mais qui est cet autre parent qui se découvre aussi lui-même. Et puis après, il y a l'univers professionnel. Et dans l'univers professionnel, il y a deux choses. Il y a la professionnelle qu'on est, et donc, tout ce qu'on s'impose comme, moi, je parle beaucoup du syndrome de la bonne élève. Je veux être la bonne élève et donc, je veux montrer que même si j'ai un enfant, je suis quand même au top et donc, je ne peux pas partir avant telle heure. Et on se met des règles qui ne nous sont pas forcément imposées, mais que la société nous a quand même bien inculquées. Et puis ensuite, il y a l'entreprise. Est-ce que l'entreprise favorise la parentalité ? Est-ce que l'entreprise a souhaité un joyeux congé maternité ? A accueilli ces nouvelles avec positivité ? Est-ce qu'on parle de parentalité dans l'entreprise ? Ou alors, est-ce que c'est un vrai problème d'être un parent ? Donc en fait, il y a tellement de facteurs qui jouent que effectivement, c'est très difficile de devenir mère et tout à coup de se dire « Non mais moi, je reste ambitieuse, ça ne change rien ». Et j'y vais, je fonce. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'ordres à remettre dans tous les pans de sa vie.
Tout à fait. Pour le coup, est-ce que tu penses que... Alors, je vais séparer les sujets pour le coup. On a la partie vie privée avec le conjoint, la conjointe, en tout cas l'autre parent. Ça, c'est vrai que ça va dépendre. Ça va dépendre aussi beaucoup de l'autre parent. Et on ne peut que constater d'ailleurs une recrudescence des séparations dans les 12 premiers mois de l'enfant au niveau de la France. Je pense que ça en dit long sur l'évolution de la mentalité des femmes qui ont plus envie en fait d'avoir un grand gamin à s'occuper en plus du petit. Donc là, pour les hommes et les pères qui pourraient écouter, bah, les gars, on a quand même une grosse charge à prendre. Mais finalement, elles n'ont pas la main là-dessus, tant que ça.
Tu veux dire les hommes n'ont pas la main ou les
mères,
femmes
les
n'ont
mères,
pas
pardon.
La main
les mères n'ont pas la main.
Les
Les
mères
mères n'ont
n'ont
pas
pas
la
la
main,
main.
tu vois.
Alors, je dirais, on n'a pas la main sur une autre personne que soi, sauf un bébé inoffensif dont il faut s'occuper, d'accord. Mais oui, non, on n'a pas la main sur notre partenaire. En revanche, il y a quand même des choses qui se jouent dans, à la fois dans la communication, c'est-à-dire savoir dire ce que je veux et ce dont j'ai besoin, quand la personne en face n'arrive pas à le voir ou ne veut pas le voir.
Tout à fait.
Et puis, il y a aussi quel rôle on se donne et comment on investit le champ de la maternité. On a tous entendu, et vraiment ici, c'est sans jugement, mais je pense qu'il faut aussi, voilà, il faut aussi se dire, bah, il y a les... En gros, les papas, parce que souvent, ce sont des papas qui foutent rien. Il y en a pas mal. Heureusement, loin de tous, mais il y en a. Et puis, il y a aussi les mamans qui veulent pas que le papa change la couche, parce que la couche n'est pas assez bien changée, donne à manger parce qu'il y en a partout. Donc, c'est très caricatural ce que je dis, mais en même temps, moi, je coach beaucoup aussi là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis prête à lâcher pour aussi prendre soin de moi, en fait. Est-ce que je veux que tout soit fait exactement comme je veux que ce soit fait, ou est-ce que je suis prête à lâcher que on aura chacun notre façon d'être parent et que ces façons-là seront différentes et que peut-être ce n'est pas si grave que les fringues soient à mettre à la machine à laver, finalement, si j'ai pas eu à donner à manger. Donc, il y a vraiment les deux. Et puis, il y a donc... dire ce qu'on veut, préparer aussi l'arrivée de l'enfant, c'est-à-dire en parler en amont, ne pas attendre le dernier moment, et puis aussi accepter que deux parents qui ont un enfant sont deux personnes différentes et ne vont pas gérer les choses de la même façon.
Je suis totalement d'accord avec toi, et je voudrais même pousser la réflexion. Alors tu parles de parler avant l'arrivée de l'enfant, moi c'est quelque chose dont je parle régulièrement, le fait de faire un projet parental pour savoir comment on va s'organiser, puis aussi même sur le sujet de l'éducation, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, parce que des fois il y a des grosses surprises. Et tu vois, juste pour revenir par rapport à l'exemple que tu donnais de donner à manger, et puis il va en mettre partout, et puis peut-être dire que c'est ok, qu'il y aura des fringues à la machine, ou il faudra nettoyer, mais en fait moi ce que j'ai envie de dire c'est, sauf que peut-être qu'on peut aussi dire au daron, tu vas donner à manger, et puis si elle en met partout, c'est toi qui nettoies, et puis c'est toi qui t'occupes de la lessive. Tu vois, on peut aller vraiment au bout de l'idée, quoi.
Mais complètement, mais d'ailleurs, moi, dans ma tête, c'était comme ça. C'est-à-dire, mais je veux dire, chacun peut aussi, quelque part, gérer les conséquences de ce qui s'est passé. Mais pour moi, ça va aussi de... est-ce que je suis prête à lâcher que peut-être, il va falloir qu'à un moment, je dise, non, mais en fait, tu fais le truc de A à Z, donc moi, je ne vais pas passer derrière et nettoyer. Et lâcher sur le fait que moi, j'aurais mis le truc à la machine tout de suite, mais peut-être lui, d'accord, il va prendre un peu de temps avant de le faire. Okay. Et je dis pas que c'est facile, et je comprends les frustrations qu'on peut ressentir, mais en fait, c'est aussi ça qu'on posait à deux et à trois quand il y a l'enfant, et puis parfois à plus quand il y en a plusieurs.
Ouais, puis tu vois, même sans aller dans ces, dans, tu vois, par rapport à cet exemple-là de fait ou pas fait, je sais que moi, avec ma compagne, pour le coup, on avait deux postes de change de la petite, tout simplement parce que déjà, moi, je suis 1m93 et elle 1m67 et que c'était pas pareil. Et puis aussi parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on rangeait pas les choses de la même manière, tu vois, pour changer la petite, et que c'est tout bête, mais il n'y a pas de meilleure façon de ranger le liniment à droite, à gauche ou quoi que l'autre. Juste qu'en fait, on a des réflexes qui sont différents, des automatismes qui se sont développés de manière différente, et qu'à un moment, tu vois, il y a toujours en fait des points de compromis, des points de solution à trouver entre deux personnes sur ces sujets-là. Ça, c'est la première dimension du sujet que je voulais aborder. Et puis, on a cette autre dimension qui est, on finira par la partie de soi à soi, parce que là, il y a tellement de choses à dire. Mais pour la partie entreprise, comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il faut en parler dès l'entretien d'embauche, peut-être ? Est-ce que ce sont des sujets qu'il faut aborder ? Est-ce que c'est une bonne idée, mauvaise idée ? Est-ce qu'il faut être frontal ? Comment est-ce que ça se passe un peu en entreprise, toi, avec ton expérience ?
Alors, Je crois que quand on rejoint une entreprise, et je dois dire même au-delà de la parentalité, on doit quand même se poser la question à un moment donné, est-ce que je suis alignée avec les valeurs de l'entreprise? On ne peut jamais savoir à 100% en amont, mais quand on a le choix, hein, quand je veux dire on n'est pas au pied du mur, mais qu'on a le choix de se dire, bon bah, je peux aller dans cette entreprise ou je peux décider d'aller dans une autre ou je peux décider d'attendre un peu avant de rejoindre une entreprise. Quand on a la chance d'avoir ce choix-là, il me semble quand même hyper important de se poser la question de est-ce que je suis alignée avec les valeurs. Et pour le savoir, eh bien, il faut poser des questions. Alors, ça ne veut peut-être pas dire que je vais poser la question « Bon, si demain je fais un congé, je prends un congé maternité, comment vous le prenez ?» Mais plus poser des questions sur quelle est la politique de l'entreprise vis-à-vis, je ne sais pas moi, comment ça se passe au niveau des horaires de travail, comment ça se passe. Vraiment, essayer d'être assez large dans les questions qu'on peut poser, qui ne soient pas juste sur le poste, mais comment vous avez l'habitude de travailler. On demande souvent... comment vous travaillez en équipe, pourquoi pas demander, on parle aussi de télétravail ou de travail au bureau, on peut élargir ce genre de questions pour essayer de comprendre quelle est la politique de l'entreprise et est-ce qu'on est aligné. Moi aussi, ce que je conseille souvent, c'est d'essayer de trouver des contacts qui sont dans l'entreprise, contact de contact, et puis de passer un coup de fil et de poser deux, trois questions, comment ça se passe.
C'est un peu de la vérification de référence à l'envers, quoi.
Oui, et je veux dire, c'est hyper important. C'est hyper important parce que, je veux dire, les entreprises, elles le font, elles vont demander des références, elles vont aller chercher le profil. Parfois, il y a les chasseurs de tête, il y a énormément de discussions sur les profils. C'est un peu pareil de l'autre côté. Pourquoi nous aussi, on ne ferait pas ça? Et quelque part, aujourd'hui, les entreprises, elles doivent évoluer sur ces questions. Elles n'ont plus trop le choix. Et maintenant, la question que les entreprises se posent, c'est vraiment comment je retiens les talents, parce que les talents s'enfuient. Parce que les gens n'ont plus envie de tout sacrifier pour leur travail. Et puis, n'oublions pas que, moi, je le vois, c'est assez hallucinant. Je le voyais quand j'étais en entreprise moi-même et puis aujourd'hui, maintenant que je suis chef d'entreprise. Mais les mamans, sont tellement organisées. Elles arrivent à faire tellement de choses, tellement de choses en peu de temps. C'est-à-dire qu'en plus, ce sont souvent des salariés ultra efficaces. Parce qu'en fait, elles n'ont pas le temps de traîner, à boire des cafés, etc. Elles, si elles veulent que leur boulot soit super bien fait, sont obligées de s'organiser. Donc, en plus, je veux dire, c'est vraiment quelque chose à valoriser, en vrai.
Donc là, tu arrives pour le coup sur le sujet, la troisième dimension qui va nous occuper le reste de l'épisode. C'est un petit peu de soi à soi aussi, c'est se rendre compte de ce qu'on est capable de produire en tant que femme, même si l'environnement... Enfin, en tant que femme, en tant que mère, même si l'environnement ne nous le souligne pas forcément. Comment ça s'exprime, selon toi, le leadership au féminin, entre guillemets, dans une entreprise et puis peut-être même dans des domaines plus larges, parce que je pense aussi au milieu associatif, où clairement, on voit bien, dès qu'il faut... Je fais un énorme cliché, mais pourtant, c'est quelque chose que je constate dans les clubs sportifs et dans d'autres associations. Quand il faut servir des coups au bar, il y a toujours du monde. Par contre, quand il faut gérer le stock et commander les produits, c'est toujours une femme qui s'en occupe.
En fait, être parent ne veut pas dire qu'on ne sert plus à rien au boulot. Je sais pas pourquoi la société s'est mis ça dans la tête, mais il faut revenir un petit peu en arrière et voir quel est l'héritage des mamans. Notre héritage historique... sociale qui même est gravée dans nos cellules. L'épigénétique a montré que comment on modifiait, comment on changeait à l'intérieur. On a une mémoire cellulaire. On a été socialisé en tant que personne qui est à la maison, qui prend soin des autres, d'accord. Et même si aujourd'hui les choses sont différentes, puisque les femmes travaillent, elles sont éduquées, elles travaillent, en tout cas en France. Il n'en reste pas moins qu'on a cet héritage. Donc, il y a toute une partie de nous qui est à fond, je veux tout. Je veux une famille épanouie, je veux une carrière épanouie, je veux du temps pour moi. Et en même temps, tout en nous, dans notre corps, dû à notre histoire et autour de nous, dans la société, nous rappelle que, c'est génial de vouloir être leader et tout ça, Mais quand même, une mère se doit d'être une bonne mère. Et une bonne mère, parmi les injonctions de la bonne mère, c'est elle qui va chercher les enfants à l'école, qui arrive à tout caser. Donc, en fait, on a tellement d'injonctions quand on est maman, injonctions d'être une parfaite mère qui ne correspond pas aux injonctions d'être une parfaite leader, qui ne correspond pas aux injonctions d'être une parfaite épouse ou partenaire, que c'est vraiment, en fait, c'est très difficile à gérer. C'est un peu le casse-tête chinois dans sa tête. Bon, ben, qu'est-ce qu'on s'autorise? Comment on négocie avec soi-même pour essayer de cocher toutes les cases? Donc là, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on est cet héritage et que cet héritage ne définit pas qui on est. On peut s'en affranchir. Mais ça commence par en prendre conscience, en fait.
Tout à fait, je peux que te rejoindre. La question qui me vient, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de cocher toutes les cases aussi, tu vois ?
Non, on n'a pas besoin de cocher. Non, on n'a pas besoin de cocher toutes les cases. Je crois qu'il y a différentes choses. Il y a déjà, on a différents moments de vie. Et on n'est pas obligé de cocher toutes les cases en même temps. C'est-à-dire qu'il se trouve que ben, entre 30 et 35 ans, on se dit c'est un peu, on est dans la fleur de l'âge, c'est un peu le moment où débarquent les loulous, on a des enfants, c'est aussi le moment où la carrière s'accélère. Et donc, c'est aussi, on se retrouve dans un truc où on essaye de cocher toutes les cases en même temps. Sauf que, sauf qu'en fait, déjà, la carrière est bien plus longue que ça. En réalité, hein. Et puis elle risque de se rallonger un petit peu plus avec l'âge de la retraite. Et puis, ce qu'on peut vivre avec des enfants en très bas âge va changer très vite une fois qu'ils grandissent et on va avoir complètement l'impression de vivre autre chose. Donc, je trouve qu'il y a un côté où il faut se rassurer que le temps passe, mais aussi le temps aide à... Enfin, on a différentes phases. Alors, il y a des phases où on va être à fond dans sa carrière, d'autres où on va être à fond dans investir sa maternité, et puis des moments où ce sera possible de faire les deux aussi bien qu'on aimerait en même temps, et qu'il faut accepter que, voilà, ce soit jamais tout au beau fixe, et que c'est un peu par phase, par vague. C'est un peu les 50-50% de la vie. Moi, je dis toujours, c'est 50% d'émotions positives et de kiff, quoi, et 50% d'émotions négatives. En fait, on est tout le temps en 50-50. Hein. Il n'y a jamais 100% de positif. Donc, c'est accepter que la maternité, c'est aussi naviguer avec ça.
Oui, tout à fait. Et puis, en plus, il y a cette ambivalence permanente de la maternité, de la parentalité, où... Un jour, on se sent un super parent, et puis le jour d'après, pour une raison X ou Y, et qui peut faire appel juste à notre histoire et à notre culture personnelle, on se sent comme la dernière des merdes. Tout ça, c'est compliqué. Et puis, il manquerait plus qu'en plus, à ce moment-là, au boulot, il y ait un petit grain de sable dans le rouage. Moi, la question... donc, j'ai bien entendu hein, le sujet de cette image qu'on a de la mère, justement, qui devrait réussir à tout faire. L'autre question que je me pose, tu vois, c'est encore une fois, c'est environnemental. C'est aussi comment est-ce qu'une mère peut faire face à ces sujets de société qui sont encore en arrière. Je vais donner un exemple très concret. Comment faire face quand il n'y a que toi qu'on appelle en tant que mère, même si c'est le papa qui est marqué en premier sur la fiche contact, quoi. Comment ouais. réagir comment, est-ce que tu as des tips là-dessus, quoi?
Alors, ouais, enfin, moi j'ai complètement des tips, donc déjà t'en as donné un, faut mettre les numéros des papas. Mais donc, ça ne suffit pas, et je sais de quoi tu parles, ça ne suffit pas. Bah, en fait, après, il faut juste dire, bah, en fait, soit on répond pas, hein, ou soit on répond et on dit non, mais là, faut appeler le papa. Et en fait, il faut, c'est terrible, je sais combien. Les féministes, souvent, je suis féministe, donc mais je pense aussi, mais souvent se plaignent. Oui, mais en plus, on doit faire l'éducation des autres.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Alors, oui, mais en même temps, c'est ça ou alors rien ne change. Donc, moi, je prends le parti de, bah, si il faut, tant pis, je préfère donner de l'énergie à dire, non, en fait, là, c'est mon mari qu'il faut appeler parce que moi, là, je ne peux pas. Ou c'est lui qui est prévu au planning. Et puis tant pis, c'est pas grave. Bah, ça prend à la personne 5 minutes en plus d'aller chercher l'autre numéro, de rappeler. Mais on a fait un pas. On vient de faire un pas. Donc, c'est aussi accepter que ben, on est dans une société où les choses ont besoin de changer, que de toute façon, ça ne va pas être parfait. Donc, soit on épuise son énergie à se dire « c'est vraiment relou et j'en ai marre, il faut que les choses changent », mais sans avoir besoin soi-même de mettre de l'énergie dedans. Ou alors, cette énergie-là que de toute façon, on est obligé de dépenser, ben, on la dépense à essayer de faire changer les choses. Et faire changer les choses, c'est faire changer les choses vraiment à son échelle, c'est-à-dire ben, avec la voisine, le voisin. Et puis, si chacun d'entre nous fait ça, au global, on va changer.
Et dans quelle mesure tu penses qu'apporter ce genre de réponse, ça ne va pas aussi amener une crainte ? Est-ce qu'il y a cette crainte peut-être chez les femmes aussi, chez les mères, de se dire « Mon Dieu, mais la personne va penser que je suis une mère horrible parce que je dis « appelez le papa ». »
Complètement.
Et là, ton truc, c'est quoi ? C'est d'inspirer, expirer, rien à foutre ?
Ouais, alors, moi, j'ai une petite technique. Bon, déjà, le pire truc qui puisse se produire, c'est que quelqu'un pense quelque chose de nous. Ouais. Mais globalement, de toute façon, la personne qui appelle pour dire « Ah, bah, faut venir chercher votre enfant. Bah, tiens, vous êtes en retard aujourd'hui. Comment ça se fait qu'il est là ?» Ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. « Comment ça se fait qu'il est encore là ?» Ah, mais c'était pas moi, c'était son père, appelez-le. mais qu'on fasse ça ou qu'on... Enfin, je veux dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, les gens auront toujours une opinion de nous. Mm-hmm. Comme nous avons une opinion de tous les gens qui nous entourent. Donc, exactement. On doit vivre toute notre vie avec l'opinion des autres. Mais la réalité, c'est que ce que ça cache quand on a peur de l'opinion des autres, c'est qu'on a surtout peur de ce qu'on pense de nous. Et donc, moi, je dis souvent, y a un exercice que j'aime bien faire et que je peux vous proposer, c'est te dire, quand il t'arrive tout en même temps et que tu te dis « mais merde, je suis une mauvaise mère » ou « je suis un mauvais père », enfin bon. Et puis, tu as le truc qui arrive au boulot en même temps, c'est l'enfer, c'est horrible. Tout est cata. Donc moi, je dis, il ne faut pas décider de ce qu'est une bonne mère ou un bon père au moment où on est dans le drame. On se pose quand tout va bien, quand on est plutôt au calme et on se demande, ok, pour moi, c'est quoi être une bonne mère ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Sur quoi je suis prête à lâcher ? Bon, en fait, ça, c'est pas très grave. Et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire en tant que maman qui m'importe pour mes enfants ? Et se dire, voilà, qu'est-ce que c'est ? Et essayer de tenir ça. Alors là, et l'idée, ce n'est pas d'écrire une image idéaliste, hein, mais vraiment de décider un truc réaliste. Et puis, en sachant que ça ne va jamais être parfait. Et puis, à chaque fois qu'on est dans le drame, revenir à ce petit paragraphe où on s'est dit « être une bonne maman, c'est ça ». Et bien souvent, quand on décide ça dans le calme, on se rend compte que, franchement, dans la plupart des cas, on est la bonne maman qu'on voudrait être. Ça veut pas dire être une bonne maman qu'on doit avoir réponse à tout quand la secrétaire appelle la secrétaire de l'école et nous dit mais vous avez oublié le goûter ou il a pas ses affaires de judo. Bon, est-ce que ça c'était la définition d'être une bonne mère dans notre résumé, ou est-ce qu'être une bonne mère c'était montrer à mes enfants que je les aime, être à l'écoute quand ils me racontent l'histoire avec de ce qui s'est passé dans la cour avec leurs copains. Et donc, ça, c'est aussi redescendre d'un cran. Oui, les gens vont en penser ce qu'ils veulent, mais ce qui compte, c'est ce qu'on en pense, nous. Qu'est-ce qu'on a envie d'en penser, en fait ? Bon, bah, les enfants ont attendu leur père. C'est pas grave, ça a fait rire tout le monde. Lui, il est arrivé en courant. Moi, ça m'a fait rire parce que j'ai dit à la secrétaire qu'il fallait qu'elle appelle le papa. La secrétaire, ça l'a fait rire parce qu'elle dit « Oh, bah dis donc, les papas, ils sont toujours en retard. » Alors que mon mari n'est jamais en retard. C'est vraiment le genre de truc qui ne lui arrive jamais. Mais bon, on s'en fiche, en fait. Finalement, les enfants allaient bien. Quelqu'un est allé les chercher, c'est ça qui compte. Donc, c'est vraiment redescendre d'un cran en se disant que tout ça ne définit pas le parent qu'on est. C'est juste un petit grain de sable et tout va bien se passer, quoi. Et donc, c'est vraiment le travail, pour le coup, c'est vraiment le travail interne. C'est ce que je disais au début, tu vois, c'est la compassion envers soi-même. Ah bah, j'ai un loupé, c'est vrai que j'ai pas envie d'oublier ça pour mon enfant. Il y a eu un petit loupé, mais en fait, c'est pas très grave. la parentalité ne se décide pas à un moment. C'est ce qui se passe un petit peu tous les jours qui est important.
Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ça. Ça me rappelle souvent ce que je dis à des parents avec qui je discute, c'est que c'est bien aussi d'essayer d'avoir cette bienveillance envers nous-mêmes, la même bienveillance que celle qu'on veut donner à nos enfants, parce qu'on est beaucoup plus dur avec nous-mêmes. Et les femmes sont quand même beaucoup plus dures avec elles-mêmes. Et puis depuis très tôt, parce que tu vois, on peut aussi se parler de la construction un petit peu dans l'éducation, notamment des petites filles. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a une étude très récente qui est sortie. Une étude PISA donc, qui traite de l'éducation. Et il s'avère que chez les ados de 15 ans, en fait, les jeunes femmes considèrent que quand elles réussissent, c'est dû à la chance, principalement. Et quand elles échouent, c'est parce qu'elles n'ont pas assez de talent. Et à l'inverse, les jeunes garçons de 15 ans considèrent que quand ils réussissent, c'est grâce à leur talent. Et quand ils échouent, c'est parce qu'il n'y a eu pas de chance ou parce que machin. Alors, je ne dis pas que toute la population pense comme ça. Hein. Juste qu'il y a une évolution. Pour ceux qui pensent comme ça, c'est l'évolution est comme ça chez les filles et chez les garçons. Tu vois ?
C'est terrible.
Finalement, c'est ce qu'on retrouve derrière. Parce que, tu vois, tu parlais de la vie en entreprise. Moi, j'ai clairement vu la différence en entreprise entre alors père, mère, pas parents, vraiment cette différence entre hommes et femmes, entre des femmes qui sont constamment dans le doute sur elles-mêmes, sur leurs capacités, et des hommes qui, au contraire, sont parfois pas au niveau et qui pensent être largement au-dessus du niveau, quoi. Comment, est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi dans tes accompagnements, et comment est-ce qu'on arrive à travailler ça, quoi ?
Ouais, alors totalement, écoute, si bien que cette étude dont je parlais, l'étude de l'IFOP, le premier frein dans le développement de la carrière des femmes, avant le sacrifice de l'équilibre de vie, c'est le sentiment d'illégitimité. Donc tu vois, t'as dans ces femmes qui voulaient accéder au poste de cadre dirigeant qui ont été interviewées, il y a 52% qui déclarent que leur pire frein, en fait, c'est le fait de se sentir illégitime. Donc oui, complètement. Et en fait, nous, notre boulot, hein, vraiment, en coaching avec mon équipe, c'est vraiment justement d'aller travailler toutes ces pensées qui nous font douter. Parce que je ne me sens pas à la hauteur, j'ai pas fait assez, je ne suis pas assez, je ne fais pas assez, c'est pas assez parfait. Donc vraiment, syndrome de l'imposteur et syndrome de la bonne élève. Et en fait, le travail, il se fait déjà dans la prise de conscience, c'est-à-dire ce sont mes pensées, mais ce n'est pas qui je suis. Quand il y a quasiment toutes les femmes qui pensent ça, on peut peut-être se dire que ce n'est pas lié à nous-mêmes, mais que c'est vraiment un phénomène de société, quoi. Enfin, encore un héritage culturel. Et puis,
on a le droit de dire patriarcal.
Complètement. Ah, mais oui, il y a un héritage patriarcal, mais oui, bien sûr. Donc en avoir conscience. Et puis ensuite, se rappeler qu'à chaque fois, ça me vient au cerveau. Mon cerveau a l'habitude, depuis que je suis née, hein, de penser comme ça. Donc, c'est de me rappeler que ça, c'est un biais de socialisation et que, en fait, je peux choisir de penser ce que je veux. Et que quand je regarde ce que j'ai fait depuis le début, par exemple, de ma carrière, je constate qu'en fait, je me suis quand même pas mal débrouillée, qu'il y a plein de fois où j'ai prouvé que j'étais totalement capable et qu'il n'y a aucune raison que cette fois-ci, ce soit la fois où je ne suis pas capable. Et donc, en fait, là, on travaille vraiment la répétition cognitive en allant penser intentionnellement d'autres choses à notre égard. Et ça peut être, j'accepte que là, je suis en train de douter, mais je me rappelle qu'en fait, ça, c'est juste un héritage du patriarcat et que, en fait, je ne suis peut-être pas parfaite, mais que tout va bien se passer. Et donc, en fait, c'est vraiment dans le coaching, c'est vraiment ça qu'on travaille. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais effacer nos doutes à 100%. Ça n'existe pas. Les gens qui disent que c'est possible, non, ce n'est pas possible. En revanche, on peut apprendre à penser intentionnellement un peu différemment, faire un pas de côté. Et aussi dans le partage, de partager. Parce que ce qui se passe dans la sphère professionnelle, les hommes parlent beaucoup entre eux, se promeuvent, se refilent les postes, etc. Les femmes, jusqu'à présent, et c'est en train de changer ça, le faisaient beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on vivait en fait cette difficulté de carrière et de maternité un peu dans son coin. Et moi, c'est pour ça que j'accompagne les femmes en groupe, parce que du coup, elles se parlent, elles se disent, mais cette femme ultra brillante qui a un poste incroyable, en fait, elle se sent aussi illégitime que moi. Donc, c'est bien que ce sentiment d'illégitimité ait certains freins, mais ça n'est absolument pas la raison pour laquelle je ne vais pas réussir à concilier maternité et ambition professionnelle. Le fait de se parler dédramatise énormément les choses. Je ne suis pas seule dans le bateau.
Et justement, est-ce que tu constates, tu vois, parce que tu parles d'ambition professionnelle, c'est un des thèmes de cet épisode de podcast, comment est-ce qu'on arrive à ne pas lâcher ses ambitions? Est-ce que, comme tu le disais tout à l'heure, ça passe aussi par l'acceptation du fait que, ben là, peut-être qu'en effet, que ce soit de mon fait ou du fait de l'environnement, la maternité fait que je suis en pause, parce que physiquement, de toute façon, il s'est quand même passé des choses importantes, mais ça ne m'empêchera pas de revenir après.
Oui, alors effectivement, je dirais qu'il y a cette question de peut-être là, je dois faire un moment de pause et ensuite je m'y remets. Et puis, à le côté, c'est accepter. En fait, moi, j'entends souvent des femmes, parce que je parle de femmes leaders, et je fais exprès de parler de leadership au féminin, parce qu'on pourrait interroger plein de femmes, elles n'oseraient jamais dire qu'elles sont leaders. Donc moi, j'ai plein de femmes au téléphone qui me disent « Oui, mais en fait, je ne sais pas trop si moi, je pourrais faire ce programme, parce que moi, je ne suis pas vraiment leader. » Et puis je creuse, elles me parlent de leur vie, je leur dis « Mais en fait, pourquoi vous hésitez un seul instant à vous penser leader ?» Donc, c'est quand on prend à bras-le-corps finalement les manettes et qu'on se dit qu'on est aux manettes, ça veut dire qu'on a le droit de mettre pause et puis qu'on a le droit de mettre play plus tard. Et puis, ça veut aussi dire qu'on a le droit de changer d'avis aussi. On a le droit d'être hyper ambitieuse et de se dire « je veux faire ça, ça, ça dans ma carrière », avoir un enfant et réaliser qu'en fait, j'ai plus tant envie de ça que ça maintenant. Et je verrai comment ça évolue, ou alors je change de voie. En fait, c'est s'autoriser à évoluer. On évolue dans la vie. Et la maternité fait énormément évoluer les choses. Et moi, j'ai constaté qu'il y a beaucoup des personnes que je coach qui me rejoignent après un congé maternité, que ce soit le premier ou le deuxième enfant. Et ça arrive parce qu'en fait, pendant le congé maternité, on fait une pause. Donc, on ne travaille pas pendant quelques mois. C'est rare dans une carrière. Donc, du coup, on a le temps de réfléchir. Et puis aussi, on se redéfinit en tant que personne puisqu'on devient mère. Et tout ça, ça fait énormément réfléchir et ça nous fait évoluer. Donc, c'est aussi se dire, ce que je trouve ambitieux aujourd'hui, peut-être que demain, mon ambition sera différente. Ça ne veut pas dire qu'elle sera moins bien. Il n'y a pas d'échelle de valeur, en fait. Ce n'est pas un jugement. C'est juste essayer de trouver toujours l'alignement avec ce qui a du sens pour soi. Et d'être honnête envers soi-même. Et cette honnêteté, elle est hyper importante. Et là où je veux en venir, c'est que j'ai beaucoup de femmes qui me disent « Non, mais moi, je ne suis pas ambitieuse. » Et en fait, honnêtement, elles ne s'autorisent pas à vouloir ce qu'elles veulent vraiment ou à dire ce qu'elles veulent vraiment parce qu'elles ont le sentiment qu'elles doivent prendre la charge totale de la parentalité, qu'elles donc n'ont pas le droit, elles ne se donnent pas le droit d'investir le champ professionnel, alors qu'au fond, si elles s'en donnaient le droit, peut-être que leur choix serait un peu différent. Donc après, c'est vraiment aussi être honnête envers soi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment, en fait, pour moi ? Et si on est honnête et après qu'on communique et qu'on arrive à trouver des compromis, des façons de faire, je crois qu'on est plus épanoui en tant que personne et donc en tant que mère, en tant que professionnelle, parce qu'on s'est donné le droit de vouloir ce qu'on veut et d'y aller, quoi, d'aller le chercher.
Je n'ai pas grand-chose à rajouter après ce que tu viens de dire, là. Non, mais c'est totalement ça. C'est totalement ça. Moi, en tant que thérapeute, je peux que appuyer ton propos, hein, que c'est s'autoriser à être qui on est. Mais ça, c'est vrai que ça demande aussi un travail de casser beaucoup de croyances limitantes qu'on a eues au travers de notre éducation, au travers de la société, en tout cas de la façon dont nous avons évolué. J'ai une dernière question, enfin une avant-dernière question, c'est est-ce que tu notes, toi, une différence de leadership ? Je vais la reprendre. Est-ce que tu notes une différence vraiment dans la façon dont s'exprime le leadership féminin par rapport au masculin, sans faire de clichés, sans faire de stéréotypes de genre, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a quand même des façons de fonctionner qui sont différentes et qui s'expriment sûrement différemment dans le leadership.
Oui, alors déjà, je dirais, avant de faire une différence entre les hommes et les femmes, je dirais plus une différence d'énergie d'énergie féminine et d'énergie masculine, puisqu'on sait que ces deux énergies sont en chacun de nous, homme ou femme. Et en tout cas, dans l'énergie féminine, qui est à ce stade aujourd'hui davantage investie par les femmes, il y a beaucoup de tout ce qui est lié finalement au care et aux soins des autres, donc beaucoup d'empathie. Ça ne vaut pas pour toutes les femmes leaders, mais ça vaut pour une bonne partie d'entre elles. Or, il se trouve qu'il y a des études qui ont montré que les managers qui manifestaient le plus d'empathie, les plus empathiques en général, étaient ceux qui réussissaient le mieux à fédérer les équipes, donc qui obtenaient les meilleurs résultats. Donc, c'est quand même intéressant à noter. Et puis, il y a cet aspect de remise en question qui est positif et négatif, c'est-à-dire une grande capacité à se remettre en question et donc à être agile et pouvoir finalement innover, changer de voie, etc., parce que on se remet en question. Mais il y a aussi le doute qui vient avec, dont on parlait tout à l'heure, et donc parfois le temps de décision qui est un peu plus long et qui peut être un frein parfois. Donc, mais vraiment, encore une fois, je parle d'énergie féminine et d'énergie masculine parce qu'il y a des hommes qui vont avoir cette énergie féminine et aussi des femmes qui vont lider avec une énergie masculine qui va être plus dans, au contraire, la décision, parfois l'autorité, un leadership qui est plus autoritaire. Donc voilà, c'est vraiment les différences que je note, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus d'hommes leaders aller dans l'énergie féminine, écrire des bouquins justement sur ça, le leadership plus collaboratif, comment co-créer, etc. Et puis les femmes qui veulent développer leur leadership et qui ont déjà tout ce côté empathique, etc., vont apprendre à être un peu plus incisives, à s'affirmer davantage. Donc, on voit bien que c'est dans l'équilibre qu'est la réussite, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je prône la parité. C'est que l'idée, c'est vraiment de créer un équilibre qui permette plus d'innovation, qui permette aussi plus d'ouverture d'esprit et qui est au bénéfice des entreprises, clairement.
Ah, tout à fait. Moi, je peux que te rejoindre là aussi, puisque pour l'avoir vécu personnellement, moi, j'ai beaucoup connu ce que tu appelles l'énergie masculine et je l'ai maîtrisée. Et c'est quand j'étais confronté à l'énergie féminine, en tout cas à un style de leadership différent, plus dans l'empathie, plus dans l'écoute, et en effet avec des processus de décision qui sont certainement plus longs par moment, mais qui sont aussi bien souvent nécessaires. Et en fait, j'ai pas vécu ça comme une transformation, mais plutôt vraiment comme une corde de plus à mon arc, mais une sacrée corde, quoi. C'est qu'en plus, quand ça vient d'un homme, on s'y attend pas. Et de même, ce que j'ai pu observer, quand ça vient d'une femme, être capable comme ça d'être dans la décision rapide, par moment efficace et appelée aujourd'hui masculine, c'est vrai que ça, c'est vraiment un gros plus, quoi, dans un parcours professionnel, de réussir à entremêler tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, aux mères là, qui peuvent nous écouter, qui sont... soit en pleine réflexion, qui sont en train de se dire ma vie c'est comme ça, même si c'est pas celle que je veux, c'est comme ça, je maîtrise pas, quoi.
Alors moi je dirais que y a une partie qu'on maîtrise pas, c'est-à-dire ce qui est extérieur à nous, on maîtrise pas les autres, on maîtrise pas parfois nos circonstances de vie, mais en revanche on maîtrise ce qu'il y a à l'intérieur, en tout cas en grande partie. Et que et moi, je suis persuadée que nos pensées créent notre réalité. Donc, retourner en soi et se poser quand même la question, mais en fait, même étant donné les circonstances, qu'est-ce que je veux pour moi ? Et se dire qu'il ne s'agit pas de gravir une montagne, mais de faire un petit pas chaque jour vers ce dont on a envie, et que ça, c'est possible, quelles que soient les circonstances. Et donc, jamais de partir vaincu, en fait. De continuer à rêver, à imaginer, d'en parler autour de soi, de ce qu'on veut, parce que c'est déjà avancé vers ça. Et de savoir dans les moments difficiles que ce sont des passages et que, après les moments difficiles, il y a des meilleurs jours. Et donc, accepter aussi que c'est le cycle de la vie et que tout se résout pas en un jour, mais qu'en fait... finalement, il faut quand même continuer à aller vers ce qu'on veut, même si c'est à tout petit pas, quoi.
Ben merci pour tous ces conseils, Jenny. Pour finir, est-ce que tu as un petit outil, quelque chose que tu peux mettre à disposition pour nos auditrices, nos auditeurs sur le sujet?
Ouais, complètement. Bah, merci à toi, Cédric. Et écoute, oui, avec joie. En fait, j'aimerais partager un guide que mon équipe et moi, on a créé, qui est vraiment fait pour les femmes. Il s'appelle « Femmes et leaders d'exception, les 10 compétences pour réussir sans s'épuiser ». Alors, je sais que les mamans veulent réussir sans s'épuiser, parce qu'on a tellement de choses à faire. Voilà. Et c'est un guide dans lequel on a mis plein de conseils hyper pragmatiques et des exercices. Donc voilà, il est totalement gratuit. Vous pourrez le retrouver sur le lien qu'on va te donner, Cédric, et puis aussi sur mon site jennychamas.com.
Très bien, je le mettrai en description du podcast, donc à retrouver juste dans la description, ça sera un lien cliquable. Et puis n'hésitez pas à le retrouver sur le site et sur les réseaux sociaux de Jenny. Merci beaucoup, Jenny.
Merci, Cédric.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.